Écrit par Gustave le Nôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, chapitre 10, Le dénouement. La fin de l'épopée impériale était proche. Les armées alliées avaient envahi la France. On commençait à comprendre que Napoléon pouvait être vaincu. Pour la première fois depuis 20 ans, le peuple songeait à ses anciens maîtres. Il existait donc encore des Bourbons. Ce comte de Lille, ce comte d'Artois, ce prince de Condé, ces ducs d'Angoulême et de Berry n'étaient donc pas des mythes. Ils étaient vivants. Ces débris de l'antique monarchie, ces fantômes raillés, honnis, bafoués, oubliés. Vraiment, il restait une fille de Louis XVI? Cela semblait si loin, si vieux. On avait tant vu de choses. Le présent avait si bien effacé le passé. Et pourtant, soit par atavisme, soit par besoin de calme et de repos, en prononçant tout bas et bien timidement le nom de ses princes, la France sentait son cœur battre comme dut battre celui de l'enfant prodigue lorsqu'il aperçut de loin le toit paternel. La nation, folle du brillant soldat qu'il avait si longtemps enivré de gloire, se trouvait lasse et presque repentante de son escapade. C'était là le sentiment général. Mais songe-t-on à ce que durent éprouver les rares fidèles qui, depuis 1792, espéraient contre toute espérance lorsqu'ils apprirent que leur prince était en France. Ceux qui n'avaient voulu voir dans l'Empire qu'un avatar de la Révolution, ceux qui, dépouillés, décimés, ruinés, proscrits, traqués, vexés de 100 façons par le nouvel ordre de choses, avaient amassé contre lui une haine de 20 années. Ceux que l'usurpateur avait brutalisés, écrasés, privés de liberté. Tout cela, une infime minorité d'ailleurs, furent saisis d'une joie suffocante en voyant poindre l'aurore d'une revanche si longtemps souhaitée. Le grand malheur des révolutions, c'est qu'au milieu des orages qu'elles déchaînent, on ne sait plus, parfois, où est la patrie, et que dans la mêlée, on arrive à lutter contre elle en croyant la défendre. Ceci soit dit, non point pour excuser, mais pour expliquer le rôle que joua, pendant l'invasion des Alliés, le héros de ce livre. Rougeville était, comme on dit, tout d'une pièce. Il avait juré, en 1792, à Louis XVI et à la reine de défendre jusqu'à la mort la royauté légitime, et personne ne l'avait relevé de son serment. Telle est peut-être toute la psychologie de cette âme étrange. Partant de là, il avait médité de détruire la représentation nationale. Il avait pris les armes, le dissoute. Il avait tenté d'arracher la reine à ses juges. Il s'était joué de toutes les lois. Il avait conspiré. Il avait menti. Il s'était fait humble. À ce jeu dangereux, il avait perdu sa fortune et sa liberté, gaspillé sa vie, sacrifié son bonheur intime et sans doute, quand son courage fléchissait, quand l'espoir l'abandonnait, se réconfortait-il en disant « Je l'ai juré ». Que l'ennemi qui le combat s'appelle Convention ou Empire héréditaire, Fouquier-Tinville ou Napoléon, qu'importe, c'est l'ennemi. Par une circonstance fatale à son honneur, vint l'heure où cet ennemi s'appela la France. Il n'hésita pas et porta le coup. La fidélité était son patriotisme à lui. Telle est la page douloureuse qui nous reste à écrire. Mais avant de l'entreprendre, il n'est pas inutile de rappeler certains faits qui, sans pouvoir servir de circonstance atténuante à l'acte de Rougeville, aideront du moins à éclaircir et à le faire mieux comprendre. Dès les premiers jours de mars 1814, Napoléon sentait le monde s'effondrer sous son poids, soit par les rapports de sa police, soit par cette intuition merveilleuse qu'il avait des choses de la politique. Il n'ignorait pas que la France tournait les yeux vers les Bourbons. Être vaincu par les étrangers qu'il avait provoqués, cela, il l'admettait. Mais se voir abandonné par ce peuple qu'il avait tenu dans sa main, voilà ce qui faisait bouillonner de colère son âme orgueilleuse et dominatrice. Ce double sentiment eut pour résultat une double défensive. Contre les ennemis du dehors, il déploya toutes les ressources de son génie militaire, voulant du moins tomber avec honneur. Contre les ennemis de l'intérieur, il réveilla l'odieux régime de la terreur pour se venger d'eux avant de finir. Et dans ce but, il signa de son glorieux nom telle mesure que n'aurait pas déparé la signature d'un Carrier ou d'un Joseph Lebon. Le décret, daté du 24 février 1814, peut figurer dans l'histoire à côté des pires arrêtés du Comité de salut public. Article 1. Il sera dressé un état des Français qui sont au service des puissances alliées ou qui, sous quelque titre que ce soit, ont accompagné les armées ennemies dans l'invasion du territoire de l'Empire depuis le 20 décembre 1813. Article 2. Les individus qui seront portés sur cet état seront traduits sans délai et toute affaire cessante devant nos cours et tribunaux pour y être jugés et condamnés aux peines portées par la loi et leurs propriétés confisquées au profit des domaines de l'État conformément aux lois existantes. Article 3. Tout Français qui aura porté les décorations des ordres de l'ancienne dynastie dans les villes occupées par l'ennemi et durant son séjour, sera déclaré traître, jugé comme tel par une commission militaire et condamné à mort. Ses propriétés seront confisquées au profit des domaines de l'État. Signé Napoléon. Ainsi l'homme qui avait ouvert aux émigrés les portes de la France, qui à l'aurore de sa gloire s'était montré envers eux si pitoyable et si généreux, ravivait, maintenant qu'il était aigri par les revers, les vieilles lois par lesquelles la terreur les avait mis hors l'humanité. Et tandis qu'il commettait cette faute, l'imprudent, les Bourbons annonçaient partout qu'ils apportaient avec eux l'oubli et le pardon. Quel dut être l'effet moral d'une semblable mesure? Il est facile de le deviner. Tous les royalistes, ceux que Napoléon molestait depuis si longtemps, comme ceux qu'il avait traités dédaigneusement en quantité négligeable, tous poussèrent un même cri. Enfin, il a peur. Le zèle d'un seul en fut-il intimidé? C'est plus que douteux. Quant au résultat matériel du décret, il fut cruel. À Troyes vivaient, respectés de tous, deux anciens gentilshommes de la cour de Louis XVI, Monsieur de Vidrange et de Gouault. Celui-ci avait été page du roi, celui-là avait jadis offert sa tête pour sauver celle du duc d'Enghien. Tous deux, restés fidèles au passé, souhaitaient ardemment le retour des Bourbons. Dès que l'armée alliée eut fait son entrée dans l'ancienne capitale de la Champagne, dès qu'ils apprirent que Monsieur le comte d'Artois se trouvait à Vesoul, ils considérèrent la France comme délivrée et reprirent avec bonheur la croix de Saint-Louis que depuis 22 ans il était interdit de porter. Mais au cours de la campagne de France, les troupes françaises reprirent possession de Troyes. Monsieur de Vidrange s'enfuit. Monsieur de Gouault, plus confiant, espérait se faire oublier et rester caché jusqu'au retour qu'il jugeait prochain des étrangers libérateurs. Il fut dénoncé, arrêté, jugé, condamné et exécuté le même jour. On dit, tandis que la commission militaire chargée de statuer sur son sort siégeait à l'hôtel de ville, un officier ouvrit la porte de la salle où les juges délibéraient et demanda si ça marchait. « Le conseil se dispose à aller aux voix, » lui fut-il répondu. « Qu'on fusille Guo sur le champ, » reprit l'officier. « L'empereur l'ordonne. » À 11 heures du soir, le condamné sortait de l'hôtel de ville, escorté par des gendarmes. On avait attaché sur son dos et sur sa poitrine un écriteau portant ces mots en gros caractères. Traître à la patrie, qu'on pouvait lire à la lueur des flambeaux de l'escorte. Sur le marché, lieu ordinaire des exécutions, on fit halte. Le vieux royaliste demanda à commander lui-même le feu et tomba en criant « Vive le roi, vive Louis XVIII !» Nous serions parvenus à donner une idée bien incomplète du caractère de Rougeville si nos lecteurs ne préjugeaient pas les faits que dut produire sur son imagination exaltée le récit de la mort de M. de Gouault. Troyes n'est pas si éloigné de Reims, que malgré l'absence des journaux et le trouble que la guerre apportait en Champagne, il ne dut apprendre, un des premiers, les détails de ce drame sanglant. L'âge n'avait point refroidi son ardeur. La terreur recommençait à faire des victimes. Il voulait en être. D'ailleurs, au cours de son existence mouvementée, il avait échappé à tant de dangers, déjoué tant d'intrigues, surmonté tant d'obstacles, dépisté tant de policiers, qu'il en était arrivé à se croire à l'abri de toute mauvaise chance. Et puis, réfléchissait-il à tout cela ? Non, sans doute. Il était né conspirateur. S'exposer était un besoin de sa nature, et grisé comme il devait l'être par l'imminent triomphe de ses idées, il éprouvait l'impérieux besoin de faire montre de son dévouement et d'être au moins pour quelque chose dans la chute de l'usurpateur. Depuis le commencement de l'année 1814, il n'avait point quitté son domaine de Balieu. Il suivait de là, avec la fièvre que l'on devine, les progrès des armées étrangères, et supputait, dans sa rage de vengeance inassouvie, l'heure où son impérial ennemi allait s'effondrer dans une suprême défaite. Reims avait été occupé dès le 10 février par un corps russe, et pendant près d'un mois, la ville était restée, pour ainsi dire, en dehors de la zone des opérations. L'effort des ennemis se portant principalement sur l'Aisne, où Blücher commandait l'armée de Silésie, et sur l'Aube, où manœuvrait l'armée de Bohême sous les ordres de Schwarzenberg. Napoléon, qui depuis le 27 janvier luttait alternativement contre Blücher ou contre Schwarzenberg, comprit que ses deux adversaires manquaient de liens, qu'en s'emparant de Reims, il coupait les communications entre l'armée de Silésie et l'armée de Bohême, et qu'il avait chance de rallier à ce nouveau centre d'opération les troupes éparses de la 2e division militaire. Le 6 mars, un samedi, 26 jours après l'entrée des Cosaques, 300 grenadiers français se présentent, par surprise, à la porte de Velles, s'emparent du poste, tuent une quinzaine d'hommes et font 200 prisonniers. Un chef des Basquires fut, dit-on, frappé le premier, près du pont du Faubourg de Paris, et enterré dans la prairie voisine. Le prince Gargarin, qui commandait la ville, prit la fuite, rencontra une avant-garde de l'armée française, fut fait prisonnier et conduit au quartier général de Napoléon. Le soir même, Reims était évacué par l'ennemi et toutes les maisons de la ville illuminait spontanément. La victoire, cependant, devait être de courte durée. Le général Corbineau, chargé par l'empereur de la défense de la place, sentant le danger et l'importance de la situation, ordonna la création de barricades en palissades. De son côté, Fleury de Chabollon, qui avait pris par intérim possession de la sous-préfecture, faisait en hâte une levée d'hommes valide. L'armée russe de Saint-Priest se massait presque en vue de la ville et son artillerie envoyait des boulets jusque dans les faubourgs. Le 7 au soir, les Rémois virent l'horizon embrasé. C'étaient les villages de Saint-Brice et de Courcelles que l'ennemi incendiait. Une bataille était imminente et elle s'annonçait terrible, livrée dans les rues mêmes de la ville entre le corps de Saint-Priest, fort de 14 000 hommes, et la poignée de braves qu'électrisait le nom de Napoléon. Les habitants, affolés d'angoisse, se pressaient sur les places. Les gens des faubourgs affluaient dans la ville, cherchant un refuge, poussant sur des charrettes leurs meubles et leurs provisions. C'était une anxiété, un désordre indescriptible. Le sous-préfet Fleury ne savait auquel entendre, quel ordre donner, quelle mesure prendre, lorsqu'une circonstance imprévue vint offrir un aliment à son indécise activité. Un parti de cavalerie française, en poursuivant quelques cosaques, venait d'intercepter une correspondance adressée au prince Volkonski, chef de l'état-major général de l'armée russe. La lettre saisie était compromettante et signée du nom de Rougeville. Il ne fut pas difficile à Fleury de Chabollon de se renseigner sur le personnage incriminé. Son dossier se trouvait à la sous-préfecture et rien qu'en le parcourant, il était aisé de se rendre compte que depuis des années, l'incorrigible royaliste s'était rangé parmi les mécontents. Il tombait donc sous le coup du décret du 24 février et le sous-préfet, à tout hasard, après s'être informé de la demeure du suspect, envoya un piquet de gendarmerie pour s'assurer de sa personne. Rougeville n'avait point quitté Balieu, soit que son habitation y fût moins bien machinée que le château de Saint-Laurent, soit que le temps de fuir lui ait fait défaut. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui, depuis un quart de siècle, se jouait des gendarmes, ne sut pas échapper au danger. Il se laissa prendre et conduire à Reims, où on l'enferma dans la prison de la Bonne Semaine, située rue Vautier-le-Noir, à l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le lycée. C'est le 10 mars, vers midi, qu'il fut écroué. À 3 heures, il comparaissait devant une commission militaire composée de 6 membres siégeant dans l'auditoire du Conseil des Prud'hommes. Établi à cette époque dans l'or ruelle, rue étroite, qui partait de la place de l'Hôtel de Ville sur le terrain actuel de la banque pour aboutir à la place des marchés derrière le Café Français. Gonze de Rougeville parut devant ses juges, assisté par maître Caffin pour défenseur. Les débats furent courts. Dans les circonstances critiques où se trouvait le pays, l'éloquence de l'avocat ne pouvait lutter. Aux yeux de ces militaires, chez qui le dévouement à l'empereur se confondait avec l'amour de la patrie, contre la lettre qu'avait adressée le prévenu à l'un des chefs de l'armée étrangère. Il suffit de lire cette pièce pour comprendre que pas un des officiers appelés à fixer le sort de l'homme qu'il avait écrite ne pouvait l'excuser et faire grâce. Prince, deux fois, j'ai été assez heureux d'être utile à vos combinaisons dans les reconnaissances que vous avez ordonné de faire, le 17 à Épernay et le 23 sur Villers-Cotterêts. Deux fois, j'ai accompagné volontairement l'officier de Cosaque, parce que, d'abord, je connaissais les chemins et tout ce qui a rapport à des démarches aussi importantes, comme ancien officier de cavalerie, et ensuite, parce que je suis plein de zèle pour vos armées. Mais c'est avec douleur, mon prince, que je rappelle à votre souvenir que le 17, pendant que j'étais absent et que je vous étais utile, on m'a totalement pillé à ma campagne de Balieu, et par surcroît, avant-hier, on m'a mis chez moi, en ville, le corps de garde du général Voronzov, tandis qu'il devait être vis-à-vis son logement dans une maison qui est vaste et libre. Si votre excellence a la bonté d'apprécier le zèle et l'ardeur qui me guident pour ses armées, si elle a aussi la bonté de les approuver, je lui demande pour toute grâce de me faire restituer mes 6 chevaux de labour qu'on m'a pris et ensuite de donner ordre que l'on me retire de chez moi le corps de garde pour être placé dans la maison au numéro 4 vis-à-vis la demeure du général. La commission condamna l'accusé à l'unanimité en lui donnant 1 heure pour se préparer à la mort. 4 gendarmes le reconduisirent à la prison de la rue Vautier-le-Noir. À 5 heures, un bataillon d'infanterie et quelques gendarmes à cheval vinrent se ranger devant la porte de la maison d'arrêt, et presque aussitôt, Rougeville parut sur le seuil. Il était vêtu d'une casaque jaune et portait d'élégantes bottes hongroises à glands dorés. Les abords de la prison avaient été évacués, mais une foule énorme s'entassait au carrefour formé par la rencontre de la rue des Anglais et de celle de l'école de médecine. Dès que le cortège se mit en marche, ce fut un écrasement, une bousculade indescriptible. La population de Reims, doublée par l'invasion des habitants de la banlieue que l'appréhension de la bataille prochaine avait refoulée dans la ville, était depuis 3 jours dans cet état nerveux qui agite les foules à l'approche des grands événements. Nulle police possible, nulle mesure d'ordre praticable. Aussi, quand la masse des curieux aperçut, au milieu du peloton qui le conduisait à la mort, ce petit homme aux yeux vifs, aux cheveux et aux sourcils noirs, ce Français qui avait offert ses services aux ennemis, ce traître qu'on disait vendu aux alliés. Il se produisit une telle poussée, il s'éleva un tel cri de malédiction et de colère que la troupe, déconcertée, s'arrêta. Les rares survivants qui, il y a quelque 20 ans encore, se rappelaient avoir assisté à cette scène avaient conservé le souvenir de l'attitude dédaigneuse du condamné. Tandis que son escorte lui frayait un passage à travers les flots pressés du peuple, il se tenait immobile, les bras croisés sur la poitrine, promenant sur les curieux ses regards perçants. Enfin, on put se mettre en marche. La troupe longea l'archevêché, contourna l'abside de la cathédrale vers laquelle le condamné leva lentement la tête, puis, par la rue du Cloître, on déboucha sur la place impériale. Là, l'encombrement était effroyable. Une masse de militaires de toutes les armes, de conscrits, de paysans avait submergé la place. À tous les balcons, à toutes les fenêtres de l'hôtel des fermes, se montraient des groupes avides de voir. Le bas piédestal, veuf depuis 1792 de la statue du roi Louis XV, avait été envahi. C'était un entassement, un flot épaissi, immobilisé au travers duquel il semblait impossible de se frayer un passage. Les soldats de l'escorte repoussaient cette foule à coups de crosse. Les chevaux des gendarmes émergeaient, piétinant sur place, refoulant les curieux. Et Rougeville, toujours calme, attendait, les bras croisés, pensif, impassible. À quoi songeait-il? L'homme que, plein de vie, on mène à la mort, revoit, dit-on, avec une acuité étrange, se déroulaient toutes les phases de son existence et les détails les plus infimes, les plus oubliés, prennent en son esprit un inexplicable relief. S'il en est ainsi, la pensée de Rougeville devait revivre les ardentes journées de juin et d'août 1792, dans cette Tuilerie battue par le flot populaire où il s'était constitué le protecteur de la belle reine qu'il avait acceptée pour chevalier servant. Il devait la revoir, blonde, émue, imposante, se remémorer ses paroles, entendre le son de sa voix. Le culte qu'il lui vouait alors avait été, en somme, la boussole de toute sa vie. Et il ressentait quelque chose de l'angoisse dont il avait été oppressé quand, à force de ruses, parvenu dans le cachot de l'auguste prisonnière, il l'avait revue blanchie, vieille, maigrie, épuisée par les larmes. Et voilà que la foule qui le huait maintenant évoquait à sa pensée l'image de la charrette de Samson. C'était un semblable concert d'imprécations et de hurlements qu'il avait accueilli, elle, quand elle traversait Paris pour se rendre à l'échafaud. Et, de même que la dernière pensée de la fille de Marie-Thérèse avait dû s'envoler vers lui, Rougeville, sous forme d'un suprême et fol espoir, de même il songeait à elle en marchant à la mort. À l'entrée de la rue du Tambour, la foule se faisait moins dense. Le cortège reformé hâta le pas. Il longea l'hôtel de ville et obliqua dans la rue de Mars. On s'approchait. Déjà on apercevait dans les vasements de l'extrémité de la rue le large espace du champ de Mars d'où les curieux avaient été éloignés. C'était là. D'un coup d'œil, il vit le décor où allait se jouer le dernier acte de son aventureuse existence. Un grand carré, vide, le mur du cimetière, au fond, et à quelques pas de ce mur, un peloton de 12 grenadiers, l'arme au pied, attendant. Quelle que fût sa force d'âme et sa résolution, il pâlit, dit-on, lorsqu'il entra dans ce vaste espace et qu'il lui fallut se diriger vers le peloton d'exécution. Mais ce ne fut qu'une faiblesse d'un instant. Il se raidit et traversa la plaine d'un pas ferme, sous le regard de 10 000 curieux qu'un cordon de sentinelles alignait à distance. Un silence solennel s'était fait. Arrivé au mur, il s'arrêta et fit face aux soldats. On le vit de loin se dépouiller sans hâte de sa casaque jaune, jeter son chapeau sur le gazon, puis il regarda le sol comme pour y choisir sa place. Un sergent s'approcha, lui tendit un mouchoir plié en long, mais il le repoussa du geste. Il mit un genou à terre et, offrant sa poitrine, il fit signe qu'il était prêt. L'officier, se détournant, leva son épée, la décharge retentit. Le corps glissa sur le flanc au pied du mur. À ce moment, un frisson d'émotion, une sourde rumeur courut dans la foule. On voyait ce corps s'agiter et, dans une convulsion suprême, lever le bras comme pour un dernier appel. Deux hommes se détachèrent du peloton et, abaissant leurs armes, ils firent feu. Rougeville eut un dernier soubresaut et retomba. C'était fini. Le corps du supplicié fut porté dans la chapelle du cimetière. Il y resta durant toute la nuit. On dit que les deux soldats qui avaient été chargés de donner le coup de grâce, tentés par la veste jaune et les bottes hongroises à gland d'or, vinrent le soir dépouiller le cadavre et, profanant à la fois les restes de Rougeville et le lieu où il était déposé, prirent jusqu'à sa chemise tachée de sang. Le lendemain, le cadavre fut retrouvé nu sur les dalles. Une personne charitable eut pitié de ce pauvre corps abandonné. Elle acheta un coin de terre et l'inhumation eut lieu sans aucune cérémonie, en présence du commissaire et de quelques curieux. On ne prit même pas le soin de dresser l'acte de décès. 12 heures après cet enfouissement, l'armée alliée commandée par Saint-Priest entrait dans Reims. La tradition locale prétend que si la ville eut à subir plusieurs heures de pillage, c'est parce que les étrangers, à l'instigation des émigrés, voulurent venger Rougeville. Il est certain que ceux des fonctionnaires qui avaient pris part à son arrestation furent particulièrement recherchés. Le général-gouverneur Corbineau se cacha dans une cave de la rue de Mars, d'où il sortit déguisé en garçon boulanger. Fleury de Chaboulon prit la veste, le tablier, les sabots d'un aide jardinier. La colère des ennemis ne trouva donc à s'exercer que sur le commissaire de police du premier arrondissement de la ville, nommé Gerbeau, qui n'avait pas eu le temps de fuir. C'est lui qui était allé chercher Rougeville à Balieu. Maltraité par les soldats, attaché à la queue d'un cheval, il fut conduit dans cet équipage jusqu'à Craon, où, fort heureusement pour lui, il rencontra le général Langeron, émigré français, qu'il avait connu à Paris et qui prit sur lui de le faire mettre en liberté. Je n'ai pas trouvé trace d'une cérémonie quelconque ni de l'érection d'un monument commémoratif sur la tombe du supplicié. On se contenta de régulariser l'état civil en inscrivant sur les registres, une semaine après l'exécution, l'acte de décès du condamné.